Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Le 9 décembre, on célébrait la journée de la lutte anticorruption. L'occasion de faire le point sur le sujet dans cette émission avec trois invités. Catherine Ferriol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du département de l'appui aux acteurs économiques au sein de l'Agence française anticorruption, l'AFA. Avec vous également, maître William Feugère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, responsable de la commission compliance et éthique des affaires du barreau de Paris et co-auteur du code de la compliance. Et enfin, Romane Ponce, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de conformité et de contrôle interne, titulaire d'un Master 2 en droit pénal économique et de la conformité, et vous avez notamment rédigé un mémoire de recherche sur la digitalisation de l'évaluation des tiers dans le cadre de la lutte contre la corruption. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Numérique et lutte anticorruption, bienvenue dans cette nouvelle émission des Temps électriques.
Non mais, entrez. Le fait que la porte soit fermée ne vous dise pas dans aucune façon d'envahir ce bureau, messieurs.
Nous sommes du commissariat section financière, vous êtes bien monsieur Bernstein?
Bien joué, seconde question.
Monsieur, vous avez 25 PV impayés et je dois vous notifier votre arrestation.
Comment 25 PV, mais quel 25 PV?
25 PV pour stationnement interdit, tous impayés.
Mais je paye mes PV, moi. J'ai toujours payé mes PV, moi.
Monsieur, vous n'auriez pas une Mercedes-Benz noire, numéro de plaque CRL 507?
507? Mais c'est à ma femme. C'est sa voiture, c'est pas la
oui,
mienne.
Oui, mais il y a 25 PV à payer.
Non, mais elle est pas à moi, elle est à ma femme. Alors ça, non, hé, salope.
Le total n'étant pas payé, j'ai un mandat d'amener. Veuillez lui passer les menottes, s'il vous plaît.
Les menottes? Mais j'ai déjà mon personnel qui me tient à la gorge, ça vous suffit pas, ça?
Vous avez 25 PV impayés et c'est votre voiture. Alors rien à faire, il faut nous suivre.
Non, mais attendez une seconde, là, j'ai une idée. Écoutez, en admettant que quelque chose qu'il y a là vous attire l'œil, alors moi, je serais ravi de vous l'offrir. Et est-ce que ça pourrait vous faire oublier ces vilains petits papiers roses que vous avez?
Qu'est-ce que vous essayez de me dire, là?
Ben, vous tenez une bricole dans la main gauche, celle-là, bon. Et celle que vous tenez dans la main droite, vous l'oubliez. Ce qu'il y a dans la main gauche vous intéresse, et dans la main droite, c'est sale, c'est très sale, alors on jette, hop, et on n'y pense plus.
Ah, comme si cette main-là... tenait 200 dollars, disons.
Waouh, c'est tout le bon là que vous m'arrachez, 200 dollars, dites, quel cadeau vous me faites.
Symbole emblématique de la corruption, joué à merveille dans cet extrait par le talentueux flic de Beverly Hills, le pot de vin n'en est pour autant qu'une des facettes. Pot de vin, fraude, extorsion, favoritisme, détournement de fonds, les infractions de corruption sont réprimées au titre des manquements au devoir de probité. La corruption fait partie des sujets qui alimentent l'imaginaire et nourrit les polémiques depuis fort longtemps. Évidemment, on se souvient des scandales les plus récents et médiatisés, mais on sait moins, par exemple, que la première condamnation par un pharaon d'un intendant corrompu remonterait à plusieurs millénaires avant notre ère. En France, la lutte contre la corruption trouve ses fondements dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui reconnaît à la société, en son article 15, le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Quelques années plus tard, 1810, le Code pénal intégrera plusieurs articles sur la corruption, dont la première forme de prise illégale d'intérêt. Depuis lors, l'arsenal législatif s'est considérablement étoffé, donnant à la notion un sens juridique bien précis. La corruption consiste dans le fait de soudoyer, de suborner une autorité afin d'en tirer quelques avantages. Qu'elle soit dite active ou passive de la part de son auteur, la corruption constitue un délit selon le droit pénal, délit qui sera plus sévèrement puni si elle émane d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Depuis 2013, la création de plusieurs acteurs majeurs donne un nouveau tournant à la lutte contre la corruption. Mise en place de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, dont l'activité est centrée sur la prévention des conflits d'intérêts, création du parquet national financier chargé de poursuivre les faits de corruption les plus complexes. Et enfin, le 9 décembre 2016, création de l'Agence française anticorruption dont on parlera dans cette émission. Pour reprendre les termes de l'AFA, cela traduit une volonté politique de probité et d'intégrité indispensable à la préservation du pacte social et au maintien de la place de la France dans le concert des nations. La conformité a alors été pensée comme une réponse, un outil pour atténuer, voire éradiquer certains risques endémiques au monde des affaires. Vous l'écrivez ainsi dans votre mémoire de recherche, Romane Ponce. L'instauration d'une démarche proactive de conformité et d'éthique se met ainsi en œuvre depuis quelques années. En se dotant d'outils technologiques adaptés, les acteurs s'engageant dans cette démarche peuvent désormais se prémunir efficacement contre la corruption et renforcer leur intégrité. Corruption et digitalisation de la compliance, on en parle dans un instant avec nos invités. C'est sur cet extrait symbolique de la bande originale du film Les Ripoux que l'on débute cet échange. La corruption, trois invités donc pour en parler. Pour commencer, afin de présenter les facettes de ce sujet complexe, on va s'intéresser à l'Agence française anticorruption, l'AFA, avec vous Catherine Ferriol. Pour débuter, peut-être pourriez-vous expliquer ce qu'est l'AFA et son rôle dans la lutte anticorruption.
Alors, l'Agence française anticorruption est un service à compétence nationale créé par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et placée sous la tutelle des ministres respectivement chargés de la justice et du budget. L'AFA a une grande mission, mission unique de prévention, qui est définie à l'article 1er de cette loi du 9 décembre 2016, que l'on appelle communément les lois Sapin 2. Et cette mission consiste à aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et détecter les faits d'atteinte à la probité. Ces faits sont listés. Il s'agit de la corruption, du trafic d'influence, du détournement de fonds publics, de la prise illégale d'intérêt, de la concussion et du favoritisme. En pratique, cette grande mission de prévention se décline en plusieurs grandes actions. Tout d'abord, l'Agence française anticorruption réalise des missions de conseil à destination de l'ensemble des acteurs publics et des acteurs économiques afin de les aider à prévenir et à détecter les faits de corruption et qui se matérialisent par exemple par la rédaction et la publication d'un certain nombre de publications, de guides pratiques qui sont des outils pour accompagner les différents acteurs, la diffusion de supports innovants comme des MOOC ou des podcasts et également la réalisation de très nombreuses interventions de sensibilisation et de formation à destination de ces acteurs publics et de ces acteurs économiques. L'AFA dispose également de missions de contrôle, puisqu'elle est chargée de contrôler les dispositifs anticorruption des grandes entreprises, je pense qu'on y reviendra, et également les dispositifs anticorruption de la quasi-totalité des acteurs publics. Elle contrôle également la mise en œuvre de programmes de conformité anticorruption d'un certain nombre d'entreprises ayant signé des conventions judiciaires d'intérêt public pour des faits d'atteinte à la probité. Parmi les autres missions de l'AFA, il convient de souligner que l'agence, depuis la loi Wasserman et son décret d'application, est également autorité externe de recueil des signalements et reçoit à ce titre un certain nombre de signalements sur des faits d'atteinte à la probité. L'agence a des missions d'analyse stratégique et notamment d'analyse du phénomène corruptif au travers de son observatoire des atteintes à la probité qui vient d'être mis en place. Elle a un rôle de coordination puisqu'elle est chargée de préparer un plan national de lutte contre la corruption dont on espère une diffusion en début d'année prochaine. Et enfin, elle réalise un certain nombre d'actions à l'international.
Et alors, de vos observations, quels sont les secteurs qui sont aujourd'hui les plus touchés par la corruption ces dernières années, c'est où on se situe dans ce phénomène?
Alors, la mesure exacte de la corruption en France et d'une façon générale dans le monde est un exercice difficile puisqu'il s'agit d'une infraction occulte par nature qui résulte d'un accord entre corrupteurs et corrompus où chacun a tout intérêt au secret le plus absolu. Une évaluation objective est pourtant un préalable indispensable, d'une part à toute réflexion sur ses causes et ses conséquences, et d'autre part à la mise en œuvre d'une politique publique efficace tendant à la faire reculer. C'est la raison pour laquelle l'Agence française anticorruption a mis en place un observatoire des atteintes à la probité qui a publié le 9 décembre sa première note d'analyse sur le fondement de 504 décisions de justice de première instance et portant sur des faits d'atteinte à la probité. Il est possible d'en tirer plusieurs enseignements. Tout d'abord, les affaires concernent aussi bien le secteur public que le secteur privé, avec cependant des secteurs publics plus intensément concernés, notamment s'agissant des acteurs publics, tout ce qui concerne le bloc communal et dans le secteur privé, le secteur de la construction. Les secteurs privés les plus concernés sont fréquemment ceux où il y a des très fortes interconnexions entre le public et le privé. Et par ailleurs, autre enseignement qui peut être tiré de cette étude, un enseignement plutôt géographique sur le territoire national, c'est que certains territoires sont plus concernés que le reste du territoire. Il s'agit notamment de la Corse, des territoires ultramarins ou encore de la région PACA. Alors, on a cette première étude nationale qui est donc librement accessible sur le site internet de l'Agence française anticorruption et qui s'accompagne d'ailleurs d'une présentation de ces différentes décisions de justice hein, sous format anonymisé, sous format de chronique, et qui, nous pensons, peuvent être extrêmement intéressantes, notamment pour les entreprises, pour avoir une source d'informations supplémentaires sur les risques auxquels elles peuvent être confrontées. Mais au-delà de cette étude nationale, il existe d'autres études. Je pense notamment au rapport de la Commission européenne du 4 novembre 2024 sur les domaines les plus exposés au risque de corruption sur le territoire de l'Union européenne. La Commission européenne accorde une importance particulière à ce sujet et elle a établi une cartographie des domaines à haut risque de corruption dans les États membres de l'Union européenne, dont il ressort que 6 domaines sont plus particulièrement concernés: le secteur de la santé, le secteur financier, les marchés publics, secteur de la défense et de la sécurité, secteur de la construction et des infrastructures et le secteur du sport.
Et alors, on va faire le lien justement avec le milieu de l'entreprise et avec les secteurs que vous évoquez, mais je me tourne vers vous, William Feuger. Vous êtes co-auteur du code de la compliance, je l'ai dit, code assez récent, 2021. Alors, on va parler de la codification de ce code, mais aussi du besoin à l'origine de cette codification, puisque les infractions dont on a parlé là précédemment ne sont pas récentes. D'où ça vient ce besoin de codifier ça et finalement, quelles sont les fonctions que vous avez souhaité avoir avec cette codification ?
Alors d'abord, je précise que c'est un code de sens éditorial. On n'a pas de code comme le code civil, le code pénal, le code de la compliance encore. C'est une demande de Dalloz et je l'ai coécrit avec Marie-Emma Boursier, qui est universitaire. Et on a fait ce travail ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on est parti du constat que les entreprises, mais pas seulement, tous les praticiens de cette matière, pouvaient avoir besoin de retrouver en un même endroit des sources qui sont extrêmement variées. La compliance, vous avez des conventions internationales, vous avez les textes européens, l'Union européenne, vous avez des textes de loi, des lois étrangères, l'extraterritorialité a une dimension assez importante, même très importante. Et puis on a tout ce qu'on appelle la soft law. Alors je ne mettrai pas les recommandations de l'AFA dedans parce qu'elles sont publiées au journal officiel, donc pour moi c'est plus que de la soft law, mais on les commente et on commente aussi des guides que produit l'Agence française anticorruption. On a voulu faire ce travail, mais avec des textes, les textes japonais, les textes américains, les textes britanniques, un travail assez général pour qu'on puisse trouver l'essentiel de ce qui peut concerner une entreprise et puis de ce qui peut aider les praticiens et notamment aussi les commentaires de jurisprudence.
Et alors, parmi les nouvelles fonctions qu'on voit apparaître, pour faire le lien avec ce monde de l'entreprise qu'on fera ensuite avec vous, Romane Ponce, une nouvelle fonction apparaît, la fonction dite de responsable conformité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Ça se développe, ça existait surtout peut-être dans les entreprises qui étaient dans les secteurs de l'assurance ou de la banque initialement. Et puis ça s'est développé progressivement. Les entreprises qui avaient des activités à l'international aussi pour des questions de législation étrangère, les entreprises qui pouvaient être avec une certaine dimension dans leur secteur d'activité étaient déjà touchées par les textes sur l'antitrust, le droit de la concurrence. Donc il y avait déjà des fonctions conformité dans pas mal d'entreprises. Ça se structure de plus en plus. Parce qu'on a besoin, et l'AFA l'a très bien rappelé d'ailleurs dans ses publications, on a besoin de responsables à un niveau élevé hiérarchiquement dans l'entreprise qui puissent analyser les risques, prôner des politiques et le déploiement de dispositifs efficaces, faire un suivi au quotidien de tout manquement ou de tout nouveau risque qui pourrait apparaître. Et donc cette fonction est devenue absolument essentielle et pour moi elle a un rôle d'accompagnement de la direction de l'entreprise au niveau le plus stratégique. Donc, un chef d'entreprise qui ne bénéficierait pas d'une cartographie des risques ne pourrait pas piloter valablement son entreprise, je pense. Et donc, un responsable compliance, j'utilise plus le terme de compliance que de conformité, parce que conformité, pour moi, c'est une vision un peu verticale et de checklist.
Mais c'est intéressant c'est d'ailleurs que vous nous expliquiez la nuance qu'on fait entre les deux termes.
Ça a été une grande discussion.
Indifféremment, mais alors quelle est cette nuance ?
Ça a été une grande discussion au moment où on a fait le code, parce que certains nous ont dit « mais comment osez-vous utiliser un terme anglo-saxon dans un code rouge ?» Mais en fait, pour les praticiens, la conformité, c'est un peu différent. C'est la vision plus classique de l'anti-blanchiment, je dirais, où on va avoir une checklist d'éléments à vérifier. C'est pas ça la compliance. La compliance, pour moi, c'est un processus en soi. Le législateur nous donne des objectifs et c'est à nous de nous organiser en entreprise, avec les conseils externes ou internes. C'est à nous de nous organiser pour atteindre ces objectifs de la manière la plus efficace qui soit en fonction du domaine d'activité et du business model de l'entreprise. Et donc c'est une vision où on fait participer les opérationnels, c'est moins vertical, c'est plus cyclique, je dirais, c'est à multiples dimensions.
Et alors Romane Ponce en entreprise, le lien est tout fait, comment on s'organise? Vous allez incarner ici cette mise en pratique. Concrètement, est-ce qu'on rencontre des difficultés dans la mise en œuvre de tout ça? Quels sont les retours sur le terrain finalement?
Alors moi, j'ai été compliance officer dans une grande entreprise française. Maintenant, je suis dans le secteur de la finance. Donc, j'ai vu deux facettes aujourd'hui de comment est-ce qu'on déploie en entreprise les mesures de lutte contre la corruption. Dans une grande entreprise, on va s'appuyer sur les 8 piliers de la loi Sapin 2. Moi, j'ai particulièrement travaillé sur les procédures d'évaluation des tiers en matière d'évaluation des risques de corruption. Tout ce qui est KYC, anticorruption. Et la question que se pose l'entreprise, c'est est-ce que le tiers avec lequel je veux entrer en relation m'expose à un risque particulier en matière de corruption? Et pour ça, on va mettre en place, nous, en tant que chargés de conformité, compliance officer, différentes étapes pour vérifier que le risque est plus ou moins élevé. On va par exemple regarder quelles sont les affaires médiatiques qui sont liées au tiers, s'il y en a. Cette affaire médiatique, ça peut être est-ce que cette personne morale ou physique a été impliquée dans des affaires de corruption? Est-ce qu'elle est actuellement impliquée dans une affaire de corruption? On va regarder aussi le pays dans lequel se trouve le tiers. Donc aussi, il y a beaucoup de questions sur est-ce qu'on regarde le siège social? Est-ce qu'on regarde l'endroit où se situent les filiales? On va aussi regarder si on a des personnes qui sont politiquement exposées au sein de l'entreprise. Et pour vérifier tout ça, on nous fournit souvent beaucoup de documents, donc des registres de bénéficiaires effectifs, des codes anticorruption, des CABIS. Donc aujourd'hui, la difficulté, ça va être le traitement des données en interne. Nous, ce qu'on voit, c'est des volumes qui sont assez impressionnants. Pour vous donner un exemple, en source ouverte, L'Oréal considère qu'ils ont 10 800 tiers aujourd'hui. Donc 10 800 personnes à checker. On a aussi une grande diversité de documents, on a des chiffres, on a des noms, on a des organigrammes. La question des CABIS se pose aussi, quels documents sont équivalents dans les pays, à l'international, etc. La fiabilité aussi de ces données, à quel point est-ce qu'on peut faire confiance à la donnée qui nous est fournie. Et bien sûr, en interne, ce qui se pose, c'est l'adhésion des parties prenantes. Comment on va faire pour que nos collaborateurs comprennent en fait la difficulté que c'est de lutter contre la corruption, comprennent en quoi est-ce que c'est important. Et on se retrouve parfois confronté au fait d'être considéré comme des entraveurs du business. Voilà, on est considéré un peu comme ceux qui vont faire des checks uniquement pour cocher des cases et finalement derrière, ils ne comprennent pas forcément la logique.
Le fameux process qui...
Voilà, tout à fait.
Qui était souligné. Peut-être Catherine Ferriol, vous voulez réagir à cet égard. Vous esquissiez dans votre première réponse la question de la sanction, enfin du rôle de l'AFA à cet égard-là, pour que ces mesures préventives soient efficaces et ces mesures essentielles pour les entreprises. Comment s'opère finalement cette prévention au plan de l'obligation qui pèse sur ces entreprises? Est-ce qu'il y a en termes de sanctions, comment on observe les choses avec votre regard de la fin. Quelle est finalement l'obligation qui pèse sur ces entreprises et votre pouvoir en termes de sanctions que vous évoquiez tout à l'heure?
L'article 17 de la loi Sapin oblige les dirigeants des grandes entreprises, donc par grandes entreprises, on parle des entreprises qui emploient plus de 500 salariés et qui réalisent plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, de mettre en place 8 mesures de prévention et de détection de la corruption. Romane Ponce en a parlé. Donc ces mesures sont énumérées par l'article 17. Il s'agit de mettre en place un code de conduite anticorruption, un dispositif d'alerte interne, une cartographie des risques de anticorruption, une procédure d'évaluation des tiers, des procédures de contrôle comptable anticorruption, un dispositif de formation pour les cadres les plus exposés, un régime disciplinaire et un dispositif de contrôle et d'évaluation interne. Donc l'agence, effectivement, va aller contrôler le dispositif des entreprises qui sont assujetties à l'article 17. Alors, c'est un contrôle sur l'existence, la qualité, la pertinence, l'efficacité de ces mesures. Et en cas de manquement, la directrice de l'AFA peut adresser un avertissement aux dirigeants de l'entreprise. Et en cas de manquement avéré, elle a aussi la possibilité de saisir une commission des sanctions. Donc la commission des sanctions est indépendante de l'AFA. Et cette commission des sanctions peut enjoindre la société et ses représentants d'adapter les procédures de conformité anticorruption dans un délai de 3 ans. Elle peut aussi prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour les personnes physiques et 1 million d'euros pour les personnes morales. Elle peut aussi ordonner la publication de la décision. Je pense que ce qu'il est important de comprendre, enfin, au-delà de ces aspects-là, et comme le soulignait à la fois Maître Feugère et Romain Pons, c'est que ces mesures, elles ne doivent pas effectivement être appréhendées comme une checklist à cocher. Et en réalité, ce que l'agence va être très vigilante sur le fonctionnement global du dispositif, qui est en fait un dispositif avec une dimension systémique. L'ensemble des mesures interagissent entre elles. Mmh. Et d'ailleurs, l'agence, dans ses recommandations, a souhaité les présenter dans un schéma particulier pour bien comprendre comment est-ce que ça pouvait être mis en place. Donc, pour l'agence, il y a 3 piliers essentiels. Le premier, c'est l'engagement de l'instance dirigeante. Sans engagement d'instance dirigeante, sans exemplarité de l'instance dirigeante, le dispositif plutôt peut se retrouver relativement bancal. Alors, vous me direz, ce n'est pas une mesure en tant que telle de l'article 17, mais elle est indirectement présente puisque ce sont les dirigeants qui ont l'obligation de mettre en place les mesures. Le deuxième pilier, qui est vraiment le socle du dispositif, c'est la cartographie des risques de corruption, puisque c'est de là que vont découler l'ensemble des mesures de gestion, de prévention et de détection. Et le troisième pilier, c'est l'ensemble des mesures de maîtrise de ces risques. Et donc, on retrouve le code de conduite, les procédures d'évaluation des tiers, l'alerte interne, etc. Et chaque mesure, comme je disais, interagit avec les autres. On ne peut pas imaginer qu'une alerte qui remonterait sur des faits de corruption ne génère pas une réflexion sur la cartographie des risques. Et qui dit réflexion sur la cartographie des risques dit nécessité éventuellement de la mettre à jour. Et si elle est mise à jour, peut-être que ça a aussi une incidence sur le code de conduite. Donc, il faut vraiment appréhender ce dispositif comme quelque chose de vivant qui doit être mis à jour régulièrement, qui évolue en fonction des activités de l'entreprise, des fusions-acquisitions, etc.
Et alors maintenant, on peut faire le lien entre cet effet systémique que vous évoquez, mais aussi la difficulté que vous soulignez, Romain Pons, du poids finalement, du nombre de données à traiter pour répondre à ces piliers, faire le lien avec la question des outils numériques qui finalement peuvent constituer une aide, parfois même une nécessité pour aller travailler cette donnée. William Feugère, dans le cadre de la lutte contre la corruption, vous avez réfléchi à la question de l'utilisation des outils numériques à plusieurs égards. Vous allez nous en parler pour faciliter le travail des compliance officers. Alors, vous avez lancé une Legal Tech qui offre des solutions diverses pour structurer l'éthique de l'entreprise en misant comme ça sur les outils numériques. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces solutions ?
Avec plaisir. Moi, j'ai fondé Ethicorp en 2017, donc quelques mois après l'adoption de la loi Sapin 2. Et initialement, c'était un outil sur un dispositif d'alerte. L'idée était de transformer ce qui était assez mal perçu par les entreprises, par les salariés, par les dirigeants, cette notion d'alerte qui était vécue comme une surveillance des uns par les autres, comme de la délation interne, et puis un risque que l'information ne parte à l'extérieur et ne porte atteinte à l'image de l'entreprise avant même d'être vérifiée. Et donc on a créé Ethicorp avec comme particularité que les alertes sont reçues et analysées par des avocats. Donc on a un traitement, une analyse qui sont faites par des spécialistes de ce que peut être la corruption, mais les alertes ne portent pas que sur ça. On parle beaucoup de corruption, mais les dispositifs d'alerte, c'est beaucoup plus vaste. Hein. La loi est plus générale dans cette partie-là. Et donc, ça peut concerner, enfin, principalement, ce sont des questions de ressources humaines qui remontent. Il faut, sur 8 alertes sur 10, on est sur des questions de ressources humaines, de harcèlement notamment. Et donc, analyser et dire aux clients comment traiter. Et on ne peut pas laisser l'entreprise démunie parce que nous, avocats, on a pu voir le cas dans nos différents dossiers. Notre correspondant dans l'entreprise n'a pas forcément connu ce cas jusqu'à présent et ne sait pas quoi faire. Et puis, on a élargi à ce qui est... En effet, le deuxième pilier est pour moi l'outil absolument fondamental dans la lutte contre la corruption et pour l'article 17, c'est l'outil de cartographie. Parce qu'on a trouvé que beaucoup d'entreprises utilisaient encore des tableurs Excel pour faire leur cartographie. Or, des discussions que je pouvais avoir avec des confrères, avec des représentants de l'AFA lors de formations, parce qu'il y a beaucoup de formation et beaucoup de prévention qui est faite par l'AFA. Ce qui est intéressant, c'est pas seulement de regarder les risques isolément, ça, on peut le faire avec un tableur Excel, mais c'est aussi de les regarder les uns par rapport aux autres et de s'interroger. Pourquoi tel risque, on l'a classé comme étant plus grave qu'un autre ou moins grave? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que cette position sur les matrices de risque, elle est efficace, elle est justifiée? Puis après, comment je mets en place le plan d'action derrière? Parce que tout ça, ça n'a absolument aucun intérêt si on fait juste une liste de risques et qu'il n'y a aucune décision de prise. Il faut qu'il y ait un plan d'action pour résoudre, pour prévenir. Donc, on a lancé cet outil-là.
Roman Pons, est-ce que vous voulez réagir peut-être sur les outils présentés avec donc toujours ce regard d'utilisatrice finalement en entreprise?
Aujourd'hui, oui, on a des outils en tant que chargée de conformité. Et je pense qu'effectivement, ils sont nécessaires pour traiter nos dossiers au quotidien. On ne pourrait pas faire sans nos outils digitaux. Et cette question des flux de données, je pense qu'elle s'est aussi massifiée avec le fait qu'on a aujourd'hui un regard très international, donc on reçoit beaucoup de flux qui proviennent de l'étranger. Et la crise sanitaire aussi a rendu nécessaire parfois l'envoi de documents par voie digitale. Et donc il faut traiter tous ces documents via des outils, parce que nous, en tant que personnes physiques, on n'a pas les moyens de le faire concrètement. Aujourd'hui, on a des bases de données qui sont beaucoup utilisés par les entreprises, qui permettent de faire des screenings, notamment sur les tiers avec qui on contracte. On a aussi de plus en plus de développement d'outils en interne, qui nous permettent surtout de centraliser l'information et de faire des recherches, d'archiver aussi les dossiers. Ce qu'on remarque, c'est qu'un seul outil, aujourd'hui, n'est pas suffisant. Il faut qu'on croise les outils, il faut qu'on croise les bases de données avec les outils internes, avec d'autres outils qu'on trouve en externe. Et on va utiliser plusieurs outils parfois pour des finalités, pour une finalité qui est identique, mais pour des besoins qui sont différents. Et ça pose des questions aussi sur le croisement des données. On peut avoir des infos qui sont en double, on peut avoir finalement des fois aussi trop d'informations. J'ai eu des outils à ma disposition qui me donnaient des rapports... corruption de 200, 300 pages sur des tiers. Et là, on se demande, est-ce que tout est utile? Est-ce qu'on va réussir à traiter vraiment le dossier de manière efficace et l'analyser? Parce que c'est l'analyse qui est le plus important. On a aussi une question de fiabilité, je pense, avec nos outils. Donc, ce qui peut être très intéressant d'ailleurs avec l'outil développé par Maître Feugère, parce que finalement... On va devoir analyser des adverses médias, on va devoir analyser, parce que des fois on a des faux positifs, on a des cas qui ressortent, on ne sait pas si c'est vraiment la personne qu'on recherche. Et le traitement des alertes, oui, aujourd'hui c'est un de nos grands sujets aussi. Et on a besoin des outils pour nous aider à trouver ces alertes, à les traiter.
Alors, on va revenir dans un instant sur la question des outils pour réfléchir en termes de perspective, finalement, à d'autres outils qui pourraient venir en complément de ceux exposés. Juste avant ça, Catherine Ferriol, vous aviez invoqué précédemment que l'AFA se lançait dans une analyse objective du phénomène de corruption et que pour autant, évidemment, phénomène occulte, c'est pas évident d'avoir une analyse... précise du phénomène. Alors, est-ce que, en lien avec ce qu'on vient de dire là, la digitalisation peut aider, dans une certaine mesure, à la détection de ce phénomène et à remonter dans de meilleures conditions de quantifier, de recenser les phénomènes?
Alors, c'est une question qui est régulièrement posée à l'Agence française anticorruption et qui se couple d'ailleurs aujourd'hui beaucoup avec des problématiques d'intelligence artificielle. C'est une question sur laquelle l'agence n'a pas encore pris position. Très certainement, elle devra investir ce sujet. Pour autant, je pense que ce que nous, on peut dire à ce stade, c'est que la digitalisation de la fonction compliance, elle ne doit pas être vue comme une fin en soi, mais comme un moyen au service de la performance de la fonction compliance. Bien évidemment, tout ce qui peut simplifier, rationaliser la vie des entreprises, nous y sommes totalement favorables. L'agence a tout à fait conscience que certaines mesures du dispositif sont particulièrement lourdes pour l'entreprise, et notamment la cartographie des risques de corruption, vous en avez parlé, mais aussi la procédure d'évaluation des tiers ou encore l'alerte interne. Et enfin, il existe bien sûr aujourd'hui des outils efficaces qui peuvent réduire la complexité liée à la volumétrie ou encore des outils qui permettent de stocker les données nécessaires au flux d'analyse. Donc, bien, il existe beaucoup de choses qui peuvent effectivement faciliter la mise en œuvre du dispositif anticorruption et qui permettent aussi une certaine surveillance sur certains sujets problématiques comme par exemple les dépenses ou les contrats. Mais pour autant, nous, je pense que nos points de vigilance vont être liés à plusieurs aspects. D'abord, Les programmes de conformité sont vraiment très spécifiques d'une entreprise à une autre. En fait, il n'y a aucun programme qui peut être reproduit à l'identique, quand bien même deux entreprises interviendraient dans le même secteur d'activité. Tout ça dépend de sa taille, de son implantation géographique, de ses activités, de ses tiers, etc., qui sont autant de facteurs qui font que le profil de risque de chaque entreprise vraiment est spécifique. Et du coup, nous, notre sentiment, c'est que même si on va vers davantage de digitalisation et d'intelligence artificielle, on ne se passera jamais d'intégration de l'expertise humaine et de finesse de l'analyse humaine sur un certain nombre de décisions pour évaluer la légitimité de comportements détectés, pour prendre les mesures appropriées. En matière d'évaluation des tiers, beaucoup d'entreprises passent par des outils, et c'est certainement très utile, mais la décision finale de travailler ou non avec le tiers, elle nécessite quand même très souvent une analyse humaine et une décision qui soit de la responsabilité de l'entreprise. Par ailleurs, alors c'est pas notre domaine de compétence, mais je pense que tous ces outils-là posent aussi des questions en termes de confidentialité, de protection des données, qui doit vraiment être un point à surveiller. Et par ailleurs, une vigilance particulière à avoir sur tout ce qui peut être des biais inhérents à des algorithmes qui seraient utilisés. Et à cet égard, on a trouvé assez intéressant la mise à jour en septembre 2024 du guide sur les évaluations de programmes de conformité par le DOJ aux États-Unis, qui inclut la gestion des risques technologiques, notamment ceux associés à l'intelligence artificielle, où en fait, en synthèse, le DOJ dit que c'est à la fois une opportunité pour accroître la performance des programmes de conformité, mais ça peut être aussi un facteur de risque si elle est mal utilisée. Et les procureurs aujourd'hui, enfin les procureurs vont être amenés à examiner comment les entreprises identifient, évaluent, atténuent les risques technologiques, gèrent les impacts négatifs potentiels de l'intelligence artificielle, formulent des formations pour sensibiliser les employés. Et on peut voir que si seront constatés des manquements à ces normes, les entreprises risquent d'être exposées à des sanctions accrues, puisque des programmes de conformité inadéquates, notamment parce que fondés sur des nouvelles technologies liées à l'intelligence artificielle, ça pourrait être considéré comme un facteur aggravant lors de poursuites judiciaires. Donc il y a aussi un point de vigilance à avoir de cette digitalisation et de l'intelligence artificielle comme moteur, enfin levier de performance, et en même temps risque à prendre en compte qui ne doit pas faire oublier l'importance de l'expertise humaine.
Là-dessus, Romane Fons, je pense que vous voulez réagir entre cette nuance entre digitalisation justement et le stade supérieur, la question de l'IA. Je vous laisse réagir.
Parce qu'aujourd'hui, je pense que les entreprises se posent beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle. On a la question de la gouvernance des données qui devient un enjeu primordial pour beaucoup d'entreprises. Et l'IA générative peut être effectivement une solution. Pour certains, c'est un nouveau mode de fonctionnement. D'autres parlent même de révolution du monde du travail. Et aujourd'hui, les enjeux pour les entreprises, ils sont de plusieurs sortes. C'est d'abord d'avoir des données sécurisées. Il ne faut pas qu'on puisse ressortir ces données ensuite de l'IA. C'est aussi de savoir si les données que va nous apporter l'IA vont être fiables. Et c'est aussi est-ce que ça va respecter la déontologie de l'entreprise. Ce qu'on voit, c'est que l'IA générative de sources ouvertes, comme par exemple ChatGPT, aujourd'hui, ça ne répond pas à ces problématiques. Donc, les entreprises vont commencer à développer des IA en interne, à les entraîner avec leurs documents internes. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il y a quand même des garanties qui vont être nécessaires pour faire en sorte que, comme le disait Mme Ferriol, il n'y ait pas de divulgation à l'extérieur des données de l'entreprise. Et je pense que le rôle du compliance officer aujourd'hui, ça va être de comprendre les enjeux et de se tenir informé aussi des avancées réglementaires, parce qu'on a vu que dernièrement, il y a l'IA Act qui arrive. Et ça va peut-être permettre finalement de créer un environnement de confiance autour de l'usage des algorithmes pour et par l'ensemble des parties prenantes au sein de l'entreprise.
Alors peut-être pour finir, en ajoutant une question qui vient logiquement à la suite de vos propos, pour finir avec vos propos peut-être à vous, William Feugère, si l'IA intègre ce process que vous évoquiez au début, dans la perspective et dans la volonté de le faire comprendre aux utilisateurs, parce que c'est finalement ce qui ressort pour appliquer ce process du point de vue de la compliance, il faut que l'utilisateur le comprenne. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager dans le code de la compliance pour anticiper cette utilisation de l'IA pour réguler? Est-ce que vous penseriez nécessaire de l'inclure? Là, je tente le parallèle parce que d'autres codes CSA incluent l'IA dans leurs articles. Alors, je voudrais votre regard.
Chez le même excellent éditeur, vous avez un code de la protection des données personnelles. Donc, je renvoie à cet ouvrage qui est très complet. Je pense que ce qui était dit sur l'IA, d'abord, il faut se méfier parce que c'est vrai qu'elle avance à une telle vitesse qu'on risque de ne plus être à jour nous-mêmes dans quelques semaines. Mais la première chose, je pense, le premier risque, c'est de ne pas s'interroger soi-même, ce que disait Mme Ferriol en fait. Si on se fie à une IA, et c'est là qu'on risque d'être sanctionné, ça veut dire qu'on n'a pas fait soi-même le travail de regarder à quel risque on était exposé et on a confié ça à une intelligence, certes, mais artificielle. Et donc on est peut-être dans un modèle. Et le pire danger pour moi de la compliance, c'est l'utilisation d'un modèle, parce que comme vous le disiez justement, il y a deux entreprises qui sont exactement identiques. Et la deuxième question, c'est quelles données? Alors, peut-être qu'on peut nourrir l'IA avec les données du code, pour rejoindre votre question. On peut nourrir l'IA avec les données de l'Observatoire de l'Agence française anticorruption, avec les thèses qui sont publiées. Je rejoins tout le monde ce soir. Mais il faut s'interroger sur le fait que tout n'est pas disponible. Par exemple, les risques, il n'y a pas de pratique de place. Les entreprises ne partagent pas entre elles leurs risques. Entre concurrents, ce serait déjà difficile, mais en plus, il y a une réticence. Donc, on a identifié un risque, même si le risque ne serait pas le même chez l'autre. On peut peut-être en oublier un. C'est intéressant de partager sur ces matières-là. Il n'y a pas ce partage. Donc, on va avoir des données judiciaires, des données de réflexion doctrinale, mais on n'a pas autant de données qu'il pourrait être utile pour nourrir véritablement une IA qui serait totalement pertinente. Sauf à réussir à mettre les principales entreprises ensemble, secteur par secteur, pour qu'elles acceptent de partager de manière confidentielle et de nourrir une IA commune. Pourquoi pas? Peut-être que l'AFA pourrait lancer le mouvement et faire une IA, une IA anticorruption. Mais voilà, je pense que c'est la question des données qui va se poser. Donc, en attendant, on a besoin de code, on a besoin d'autres documents. Mais c'est ça, l'IA se nourrit. Et on doit la nourrir. Et elle ne peut pas le faire toute seule. Et ça risque d'être, pour le moment, un manque dans les mois ou années qui viennent.
Bon, sujet donc à suivre, mais peut-être l'IA trouvera-t-elle un jour sa place aussi dans le code de la compliance, du coup. Merci à vous trois pour cet échange. Yes.
Depuis l'antre du Master of the Game à YDE, siège des institutions, VAL0, Faucon, Connexion. Yes, des patriotes en mission contre la corruption. Et ça, tu le sais. Mais ça, à l'oreille. Un état corrompu n'a aucune chance de s'en sortir. Je commencerai par une déclaration forte pour pas mentir. La corruption, c'est le cancer de l'économie. C'est comme pour dire qu'on n'est pas loin de l'apocalypse. De la mort assurée, une jeunesse asphyxiée, un pays prêt à péter, une bombe prête à tuer. Être classé numéro 1 n'est pas une qualité, c'est plutôt une honte, et on est tous concernés. Je ne veux pas citer ces hommes, car ces hommes se reconnaissent, mais je veux interpeller l'homme pour que l'homme se reconnaisse. La corruption fout la merde, même dans la musique. La création fout le camp, y'a trop de piraterie. Elle ne nous sert pas, elle sert une minorité. Elle tue l'amour pour le travail et prend la facilité. Elle élève les feignants et tue ceux qui peuvent bosser, elle favorise le vol, la totale impunité. La corruption, c'est le poison de la société. Elle paralyse les hommes, inhibe toute volonté. Elle fait de nous des marionnettes sans aucune intégrité. Elle tue en nous la morale, le sens de la vérité. La corruption, c'est le cancer de l'économie. Faut qu'on fasse bloc, qu'on dise non pour notre pays. Les jeunes ont plaid en ont marre de ces tragédies. La corruption, c'est la mort en suicide collectif. La corruption, c'est le cancer de l'économie. Faut qu'on fasse bloc, qu'on dise non pour notre pays. Les jeunes ont plaid en ont marre de ces tragédies. La corruption, c'est la mort en suicide collectif. En vérité, la corruption, c'est le mal à la racine des dictateurs qui dictatorent et à travers d'un revers assassinent nos rêves. Imagine vrai la trêve d'une jeunesse, la vie d'un membre brisé par ses gestes privés d'opportunités. Quel gâchis, sa beauté et une vitalité dans ce pays soi-disant pays des droits de l'homme.
La corruption au cœur du rap, rap français, ici, dans ce morceau de Général Valsero. Pour terminer, je vous propose de faire le lien avec un autre sujet, grâce à une lecture issue d'un article du journaliste Erwan Seznek, article publié dans l'hebdomadaire Le Point du 28 novembre dernier.
C'est la petite musique qui monte depuis des mois. La corruption organisée par les trafiquants de drogue gagne du terrain. À toutes les étapes du circuit, qui va des portes d'entrée de la marchandise sur le territoire jusqu'aux prisons, en passant par les douanes, la police et la justice. Chef de l'office anti-stupéfiant, OFAST, Stéphanie Charbonnier avait fait part au Point de ses inquiétudes à ce sujet l'été dernier. L'information qu'un téléphone est sur écoute, des pièces à conviction qui s'égarent, il en faut peu pour compromettre des mois d'enquête. Cette semaine, c'est un rapport de la Cour des comptes sur la lutte contre le trafic de stupéfiants qui évoque le sujet. La masse des profits générés par les trafics de stupéfiants procure des moyens très nettement supérieurs à ceux des États et permet d'acheter sans compter, écrivent les magistrats. Ils soulignent également que les organisations criminelles procèdent à des enquêtes de criblage pour évaluer la vulnérabilité d'une personne et s'assurer de son concours. Le rapport cite les dockers et agents des douanes, les forces de l'ordre, les magistrats et leurs auxiliaires, le personnel pénitentiaire, mais aussi des agents municipaux mis à contribution pour stocker les stupéfiants dans des bâtiments publics. Les affaires se succèdent à un rythme qui s'accélère. En juin 2023, une greffière du tribunal de Saint-Nazaire a été arrêtée. Elle transmettait des informations à un trafiquant. En décembre 2023, deux agents de l'établissement pénitentiaire de Meaux-Choconin, dont une greffière, ont été mis en examen et incarcérés pour avoir facilité la libération de trafiquants. En janvier 2024, 9 personnes, dont un fonctionnaire de la police aux frontières à l'aéroport d'Orly, ont été mises en examen dans une affaire de trafic de cocaïne et de cannabis. En mars 2024, c'était 6 surveillants du centre pénitentiaire de Réau qui étaient mis en examen pour trafic de stupéfiants. Au moins un enquêteur de l'antenne marseillaise de l'OFAST fait actuellement l'objet d'une enquête de l'inspection générale de la police nationale pour des faits de corruption présumés signalés par la hiérarchie. À Rennes, la méfiance règne. En janvier 2024, raconte une source locale, une opération anti-drogue dans le quartier du Blosne a été annoncée aux policiers au dernier moment, parce que le parquet et la hiérarchie se méfiaient des fuites. Ils avaient raison. L'opération a tourné court, quelqu'un avait prévenu les trafiquants. Je vous le dis tout net, sans la corruption, il n'y a pas de trafic, déclarait Émile Diaz, ancien membre de la French Connection, devant la commission d'enquête sénatoriale sur l'impact du narcotrafic en France, qui a remis son rapport en mai 2024. Parole d'expert.
Aujourd'hui, le trafic de drogue trouve un terreau des plus fertiles sur le dark web aussi, que n'évoque pas directement l'extrait qu'on vient d'entendre, cette partie cachée d'Internet qui facilite notamment la dissimulation de son anonymat. Alors de façon un peu différente de celle que l'on a abordée ici, pour terminer peut-être, est-ce que ce manque de transparence qu'on a ici au service du trafic de stupéfiants n'est pas aussi une limite importante qui se dessine, une entrave à la lutte contre la corruption ?
Comme on l'a dit dans cette émission, les infractions de corruption sont des phénomènes difficiles à combattre car ils sont par définition nature et sont d'autant plus difficiles à combattre qu'ils sont très évolutifs, qu'ils s'adaptent beaucoup aux nouvelles technologies et qu'effectivement aujourd'hui des moyens mis en œuvre ne sont pas ceux qui existaient il y a 10 ans. Ce qu'on peut constater, c'est que les magistrats qui jugent aujourd'hui ces affaires ne sont pas toujours suffisamment spécialisés pour les appréhender, il n'est pas toujours évident d'établir les éléments de preuve. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que dans ces affaires, on aboutit souvent à ce qu'on appelle des qualifications pénales dégradées. Mmh. C'est-à-dire que comme les magistrats ont du mal finalement à réunir les éléments de preuve, les peines prononcées vont plutôt être des peines de complicité de trafic de stupéfiants que des peines dans le champ des atteintes à la probité. Mais l'article qui vient d'être lu énonce une réalité très inquiétante, effectivement, qui aujourd'hui fait l'objet d'une préoccupation de la part du gouvernement dans son ensemble, qui a d'ailleurs annoncé début novembre le lancement d'un plan de lutte contre la criminalité organisée, qui est un dispositif gouvernemental et auquel l'Agence française anticorruption fait partie prenante. Elle a d'ores et déjà réalisé un certain nombre de contrôles avec une approche sectorielle dans le domaine des ports en faisant des contrôles en vis-à-vis, c'est-à-dire en contrôlant à la fois des acteurs économiques et des acteurs publics, puisqu'il est indispensable du coup d'avoir aussi cette vision croisée. Ce type de contrôle sera amené à être renforcé et en lien avec la thématique, très certainement, c'est là où on voit en fait l'urgence à renforcer les moyens de détection le plus en amont possible pour pouvoir appréhender plus efficacement ces infractions d'atteinte à la probité.
Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Catherine Ferriol, chef du département de l'appui aux acteurs économiques au sein de l'Agence française anticorruption. Maître William Feugère, avocat, responsable de la commission Compliance et éthique des affaires du barreau de Paris, co-auteur du code de la compliance. Et enfin Romane Ponce, chargée de conformité et de contrôle interne. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Léo Bardot à Rango. Je vous donne rendez-vous l'an prochain, désormais rendez-vous 2025. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À très bientôt.